Comment devrait être l'amour d'Allah? L'amour d'Allah est un sentiment profond d'affection auquel se mêlent différentes émotions. Cet amour se compose à la fois de soumission au Créateur, Seigneur infiniment puissant, d'une confiance forte en son infinie miséricorde, d'un grand respect pour son infinie sagesse, ainsi que d'une immense admiration pour son infinie beauté. Savoir qu'Allah est le Seigneur de l'univers ajoute à cet amour loyauté et dévotion. L'homme qui prend conscience de tout cela devient entièrement dévoué au Seigneur, faisant preuve pour lui d'un amour intense, totalement vrai et pur. Dans le Coran, Allah parle des idées erronées des hommes qui lui associent d'autres divinités et les vénèrent, ainsi que de l'amour pur et sincère éprouvé par les croyants à son égard. Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Seul Allah est digne d'être aimé. En effet, tout ce qui rend l'homme heureux et qui lui procure du plaisir est une bénédiction qu'Allah lui accorde. Il est le vrai et l'unique Seigneur de la beauté. L'amour qu'un homme ressent pour ce qu'il voit et ce qu'il aime doit donc toujours être tourné vers Allah. L'amour d'Allah n'est-il pas suffisant? La crainte d'Allah est-elle également essentielle? Selon le Coran, le véritable amour exige du respect et c'est également s'écarter de tout ce qu'Allah réprouve. Si l'on prend en considération les actes et la vie des hommes pour lesquels l'amour d'Allah seul suffit, on remarque que leur amour est inconstant. Toutefois, une personne qui aime sincèrement Allah va appliquer strictement ses commandements, éviter ses interdits, et sera ainsi guidée à travers les actes qu'Allah approuve. L'homme témoigne son amour à Allah en recherchant sans cesse son agrément, par un profond respect, de la confiance, de la soumission et de la loyauté à son égard. Conséquence de cette crainte, l'être humain redoute par-dessus tout de perdre l'agrément d'Allah et d'attirer sa colère. En d'autres termes, exprimer son amour d'Allah seulement par des mots, tout en continuant à mener une vie insouciante dans la transgression des limites fixées par le Créateur, telle est la preuve évidente d'un comportement hypocrite. Dans le Coran, Allah ordonne aux hommes de le craindre. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les associateurs. Agréez Allah. Que signifie cette expression ? Agréer Allah signifie être heureux du sort qu'il a prédéterminé pour l'homme, de manière inconditionnelle et sans aucune réticence. L'être humain ne peut pas avoir conscience du bienfait des événements au moment où ils se produisent. Néanmoins, qu'il en prenne conscience ou pas, l'homme doit savoir qu'Allah destine assurément le bien dans tout ce qui peut arriver. En effet, les croyants ont une confiance infinie en leur Seigneur et naturellement dans tout ce qui leur arrive. Ils ne se préoccupent pas du bien ou du mal des événements, car leur foi en Allah est sans faille et ils savent pertinemment qu'ils en tireront toujours un bienfait. Demain, une personne peut être condamnée par la maladie, avoir un grave accident et être frappée d'un handicap physique, perdre sa fortune et s'appauvrir, ou encore être victime d'injustice, ou bien devoir faire face à un problème inattendu et déstabilisant. Peu importe l'issue des événements, l'homme doit savoir que tout est sous le contrôle permanent d'Allah, et par conséquent, se sentir serein et apaisé. Dans ce cas, l'homme est entièrement soumis à la sagesse et à la miséricorde d'Allah. Il remercie son Seigneur, quelles que soient ses conditions de vie. Telle est l'attitude exemplaire que devrait adopter une personne en paix avec Allah. Allah énonce le fait suivant à propos de ses serviteurs qui l'agréent. Allah a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Se rapprocher d'Allah. Que signifie cette expression ? Se rapprocher d'Allah signifie éprouver un amour, une dévotion et une crainte grandissante pour lui. Il n'existe pas de limite pour savoir jusqu'où une personne peut se rapprocher d'Allah. Les hommes dans l'au-delà seront récompensés proportionnellement à leur rapprochement à Allah et gagneront en conséquence de leurs actes la vie éternelle au paradis. Le but principal de tout homme dans cette vie serait de faire un véritable effort dans ce sens, comme Allah l'affirme. Les efforts accomplis par les croyants à ce sujet sont ainsi décrits dans le Coran. Tel autre parmi les bédouins, crois en Allah et au jour dernier, et prends ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah et Allah les admettra en sa miséricorde, car Allah est pardonneur et miséricordieux. L'amour et la dévotion éprouvés par une personne qui se rapproche d'Allah augmentent sans cesse. Elle craint énormément les agissements condamnés par Allah et évite ainsi les actes répréhensibles. Sa piété, sa ferveur et sa volonté de servir la religion n'en seront que plus grandes. Plus l'homme se rapproche d'Allah, plus ses vertus s'affirmeront en lui. Est-il possible de reconnaître les personnes plus pieuses ? Quel type de comportement est un signe de piété ? Il est important de préciser que la piété est la base de tout. En d'autres termes, c'est craindre Allah et œuvrer pour la religion. En dehors de cela, le désir d'une personne de toujours vouloir plus, son ascendance, le statut social, ainsi que les biens matériels, ces éléments n'ont aucune importance au regard d'Allah et des musulmans. Allah exprime cette vérité dans un verset. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Aussi, quelles sont donc les personnes les plus pieuses? Il est impossible de déterminer quel est l'homme le plus pieux au regard d'Allah. La véritable piété, la sincérité et la foi sont dissimulées dans le cœur et seul Allah connaît le cœur des hommes. Les seuls moyens pour les hommes d'apprécier le comportement d'une personne pieuse sont sa sincérité envers Allah, sa loyauté vis-à-vis de la religion, l'effort sincère qu'elle va mettre en œuvre pour plaire à Allah, sa ferveur et sa détermination à servir la religion, et sa loyauté et son amour pour les croyants. Tous ces critères permettent d'estimer le degré de piété de cette personne, même si le jugement final appartient à Allah seul. L'être humain gagne en piété en évitant les péchés et les actes illicites ou les comportements non conformes avec la morale du Coran. Toute personne qui applique avec fermeté des principes moraux sains, qui s'efforce de soutenir sa religion en étant plus assidu dans son accomplissement, verra sa foi augmenter comparée à celle des autres. Un croyant pieux se reconnaît également à sa sagesse. Les décisions qu'il prend sont les bonnes. Il trouve plus facilement et plus rapidement des solutions aux problèmes auxquels il doit faire face. Son discours est beaucoup plus sage et plus éloquent. Il peut percevoir dans les événements certains aspects qui échapperont à d'autres grâce à une conscience clairvoyante. Ne parlant jamais des services qu'il rend aux autres, l'intention de cette personne n'est pas de se valoriser, mais plutôt d'agir en toute sincérité. Il ne recherche pas la satisfaction et les louanges des autres à travers ses actions. Son unique objectif est de plaire à Allah. Sans se soucier de sa situation, il observe toujours les limites fixées par Allah. Un homme qui possède tous ses traits de caractère est supposé être vertueux. Mais malgré tout, il n'est pas possible de se faire une opinion définitive et de savoir si cette personne est réellement pieuse, ou encore de déterminer entre deux personnes celle dont la foi est la plus élevée. Cela explique pourquoi l'homme ne peut faire qu'une évaluation superficielle basée sur l'apparence. La foi réelle de l'homme, sa dévotion, sa sincérité et son rapprochement à Allah, tout cela n'est connu que d'Allah. Prier avec espoir et crainte implique quelle attitude pour l'homme? Allah a commandé aux hommes tout au long de leur vie de concourir au bien et d'accomplir de bonnes œuvres afin de gagner sa satisfaction. Mais personne ne peut s'assurer de l'entrée au paradis en raison de ses actions. Peu importe donc la force de sa dévotion à Allah et sa sincérité, l'homme va vivre chaque instant de sa vie partagé entre l'espoir et la crainte. Redoutant le châtiment de l'enfer, il demandera la rémission de tous ses péchés. Par ailleurs, comme il a adopté une foi sincère, il supplie Allah de lui pardonner ses offenses. Car d'une part, il craint d'aller en enfer, et d'autre part, espère accéder au paradis dans l'attente du jour du jugement d'Allah. Et d'autre part, espère accéder au paradis dans l'attente du jour du jugement d'Allah. Il est écrit dans le Coran que les prophètes ont prié Allah par crainte et par espoir. Nous l'exauçâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Comment les prières des prophètes et des croyants sont-elles décrites dans le Coran? Allah n'a fixé aucune limite aux croyants pour prier et les a invités à se réfugier auprès de lui et à implorer son aide pour tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Il dit « Appelez-moi, je vous répondrai ». Si on regarde les prières des prophètes citées dans le Coran, on constate qu'elles sont sincères et toujours tournées vers Allah, faisant fi du monde extérieur. C'est ainsi que les prophètes invoquaient Allah en l'appelant par ses attributs quand ils priaient. Les croyants devraient aussi se tourner vers Allah avec cette honnêteté et cette sincérité et lui confier leurs secrets. Voici quelques exemples d'invocations de prophètes et de croyants adressés à Allah dans le Coran. Pour les guider sur le droit chemin, le chemin de ce qu'Allah a béni, et pour les préserver du chemin de ceux qui provoquent sa colère et de celui des égarés, pour faire du lieu où ils vivent un lieu de paix, pour procurer des fruits aux habitants de leur ville qui croient en Allah et au jugement dernier, pour faire d'eux des musulmans soumis à Allah et faire de leur descendance une communauté musulmane soumise à Allah. Pour leur montrer leurs pratiques religieuses, pour les rendre miséricordieux, pour leur accorder des bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà, pour les préserver du châtiment du feu et de l'humiliation le jour du jugement, pour ne pas les sanctifier s'ils oublient ou commettent un péché. Ces invocations récitées par les prophètes sont un guide pour l'être humain. L'homme doit fréquemment prier Allah dans sa vie quotidienne et lui révéler l'ensemble de ses désirs et de ses angoisses. Il ne doit pas oublier qu'Allah exauce les vœux de ses serviteurs qui le prient sincèrement. Le repentir de l'être humain à l'heure de sa mort est-il accepté par Allah? Allah révèle dans les versets du Coran qu'il acceptera le repentir des hommes, mais pas à l'heure de leur mort, même si chacun a l'occasion de se repentir de ses péchés jusqu'à la fin de sa vie. Allah n'a fixé aucune limite quant à la possibilité de demander pardon. Une personne peut en effet avoir commis le pire crime inimaginable ou encore avoir eu une attitude totalement irréligieuse. Malgré tout cela, et indépendamment de ses actes passés, si la personne se repent sincèrement, prie pour la rémission de ses péchés, et à la fois, Allah révèle qu'il peut accepter le repentir de cette personne par sa seule volonté. Celle au contraire qui n'a pas jugé utile de se repentir d'une longue vie d'incrédulité, ni de changer d'attitude, exprimera lors de son dernier souffle son repentir face à la peur de mourir d'une façon bien différente. Le décret dans le Coran concernant les repentis stipule: mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qui s'écrie « Certes, je me repens maintenant », non plus pour ceux qui meurent incroyants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Généralement, les hommes ne prient que dans les moments difficiles. Comment ce comportement hypocrite est-il décrit dans le Coran ? Les personnes pour lesquelles la morale du Coran n'est pas importante prient Allah uniquement lors d'une maladie, d'un problème ou d'une catastrophe dans leur vie. Celles qui cherchent refuge auprès d'Allah dans ces moments-là l'invoquent nuit et jour pour qu'il les libère de leurs soucis et qu'il leur accorde sa bénédiction, puis changent aussitôt de comportement dès que leur situation est réglée. Mais si par la suite elles oublient de prier Allah et de le remercier pour toutes les bénédictions qu'il leur a accordées, c'est avant tout dû au fait que ces personnes n'étaient pas à l'origine de vrais croyants. L'attitude qu'elles adoptent quand elles sont confrontées à des tracas et des difficultés résulte de leur prise de conscience de leur incapacité de s'en sortir sans l'aide d'Allah. Dès qu'elles seront secourues et libérées de leurs soucis, leur ingratitude envers Allah et leur conception pervertie de la moralité reprendront immédiatement le dessus. Cette manière hypocrite de se comporter est citée en exemple dans le Coran et décrite ainsi. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui, et lorsqu'il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Pourquoi l'homme sans la religion ne peut-il pas être heureux? Il n'est pas possible pour une personne d'être heureuse au sens vrai du terme, aussi longtemps qu'elle ne vit pas selon la religion. Cela explique pourquoi une personne, pour se sentir heureuse, a besoin avant tout d'être en harmonie avec sa conscience. En d'autres termes, rien ne doit exister qui puisse lui causer une grande peine, la jeter dans la perplexité ou lui faire éprouver du remords. Être en accord avec sa conscience ne peut être atteint que d'une seule manière, celle de vivre selon la religion. La conscience, qui est sous le contrôle d'Allah, commande toujours à l'homme de croire en Allah, de répondre aux exigences de la religion et d'agir selon la morale du Coran. Aussi, il est impossible pour une personne incroyante qui a été aux prises tout au long de sa vie avec sa conscience d'être heureuse. Allah a révélé que l'homme ne peut atteindre la sérénité du cœur et une vraie paix que par la voie de la foi. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Quelle est la véritable nature de la vie dans ce monde? Une des plus sérieuses méprises, mais en grande partie non admise, est l'hypothèse suivante. La vie dans ce monde serait la vraie et l'unique vie. En réalité, le monde est un lieu temporaire créé par Allah pour mettre à l'épreuve l'être humain. La vraie vie, c'est celle après la mort. En conséquence, tout ce qui séduit les hommes et les préoccupe durant cette vie éphémère n'est que provisoire et plaisir illusoire. Comme il est formulé dans la sourate 3 au verset 14, Allah met en garde les hommes contre cette déception, leur rappelant que la vraie vie est belle demeure et auprès d'Allah. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Comme le décrit ce verset, les objets de valeur, le capital, les biens, les affaires fructueuses, les épouses riches et belles, les enfants en bonne santé, ainsi que les belles maisons, toutes ces valeurs éphémères attachent les hommes à ce bas monde. L'homme ne doit pas oublier que toutes ces choses temporaires sont avant tout des bénédictions d'Allah. Comme cela est indiqué dans un certain nombre de versets, la destination la plus belle et la plus vraie des destinations est la demeure de l'au-delà. Une personne doit utiliser les bienfaits qui lui sont accordés ici-bas dans le but de se préparer à l'au-delà. Les hommes qui agissent pleinement conscients de ce fait ne seront jamais aveuglés par les futilités de ce bas monde. Que signifie être heureux et satisfait de la vie dans ce monde ? Être satisfait de la vie dans ce bas monde signifie œuvrer et planifier son existence ici-bas et négliger totalement la vie dans l'au-delà et ne vivre que pour ce monde. De telles personnes préfèrent la vie ici-bas qui ne dure que 60 ou 70 ans ou plus à la vie éternelle de l'au-delà. Elles oublient que la vie au paradis est absolue et infinie, alors que ce monde est imparfait. La vie dans ce monde leur paraissant si proche, et celle de l'au-delà si lointaine, leur désir est avant tout de profiter de ce monde. Leur plus grave erreur est de ne pas préparer ici-bas leur vie pour l'au-delà. Quant aux hommes qui aspirent à une vie éternelle, ils pourront à la fois apprécier les bienfaits de la vie terrestre et les beautés du paradis. Et ceux qui se satisfont de la vie ici-bas profiteront uniquement de ce monde et seront châtiés dans l'au-delà. La sanction des hommes satisfaits de la vie ici-bas est ainsi décrite. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes ou versets, leur refuge sera le feu, pour ce qu'ils en acquéraient. Ceux qui oublient leur Créateur, se vont corps et âme de façon cupide à la vie ici-bas, feront le deuil d'une vie éternelle de bienfaits infinis. Qui plus est, dans l'au-delà, ils ne pourront plus jamais atteindre toutes ces choses auxquelles ils étaient si attachés dans ce monde, et ce même pour une seconde. Toutefois, comment expliquer que l'homme ne soit pas sanctionné immédiatement pour les erreurs commises ici-bas ? Que l'homme ne soit pas sanctionné sur le champ pour ses erreurs ne devrait en aucune façon être une incitation à la négligence. Allah, en effet, donne aux hommes un temps fixé et les éprouve ainsi pour connaître leur manière d'agir. Il promet la vie éternelle à ceux qui font le bien et le châtiment de l'enfer à ceux qui commettent le mal. Aussi, un homme qui n'est pas immédiatement sanctionné pour le mal qu'il a commis ne devrait pas se méprendre. Bien au contraire, il devrait immédiatement réaliser qu'on lui a donné un délai pour se repentir, sans compter l'amour et la compassion d'Allah. Dans le Coran, Allah informe l'humanité de ce fait dans le verset en ces termes. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Une personne raisonnable doit saisir chaque occasion pour se repentir de ses erreurs, les corriger et s'efforcer de ne plus les reproduire. Comment expliquer les raisons divines des faiblesses humaines ici-bas ? De nombreuses contraintes physiques affligent l'être humain. Avant tout, l'homme doit prendre soin de son environnement et de son corps et les entretenir constamment. Le temps qu'il y consacre mobilise une grande partie de son existence. Cependant, peu importe l'attention qu'il y porte et le nombre de soins effectués, l'effet n'est que temporaire. Une personne qui se brosse les dents aura le sentiment une heure plus tard qu'elle ne s'est jamais lavé les dents. Quelqu'un qui prend un bain l'été aura l'impression de ne l'avoir jamais fait quelques heures plus tard. Ce qu'il est important de comprendre ici est que toutes ces contraintes physiques ont un but défini. Ce ne sont pas des faiblesses naturelles, mais elles ont été créées pour une raison précise. La vieillesse et les changements qui l'accompagnent sont également des imperfections créées par Allah, dont l'objectif est de faire réfléchir l'être humain sur le caractère temporaire de la vie, de lui éviter ainsi de s'attacher à ce monde imparfait, et enfin, pour qu'il ait seulement un but, celui d'accéder à l'au-delà qui est la vraie demeure. Allah affirme dans la sourate 6 au verset 32 que le meilleur objectif de l'homme est l'au-delà. La vie présente n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas ?